Comment lutter contre le VIH-SIDA en milieu scolaire? On en parle à présent avec Didier Caméré, coordonnateur provincial du Programme national des luttes contre le SIDA. Didier Caméré, bonjour.
Bonjour.
Le SIDA et le VIH-SIDA et les infections sexuellement transmissibles touchent plus les jeunes de 14 à 18 ans. L'usage en commun des objets tranchants et les rapports intimes non protégés par certains élèves, notamment des humanités, serait à la base de la propagation de cette pandémie en milieu scolaire, selon le Programme national de lutte contre le VIH-SIDA. Alors comment lutter efficacement contre le SIDA en milieu scolaire, Didier Caméré?
Oui, par rapport aux stratégies de lutte contre le VIH-SIDA, pour les jeunes, nous proposons d'abord l'abstinence. Au regard de tous les avantages de l'abstinence, d'éviter les grossesses précoces, d'éviter toutes les complications liées aux infections, etc. Mais il s'est avéré que les jeunes gens ne s'abstiennent pas. Ça, c'est une évidence que l'abstinence n'est pas observée. Et donc, nous proposons la deuxième stratégie, puisqu'ils ont des rapports sexuels. Ceux qui devaient être abstinents, nous leur proposons de se protéger par rapport à tous ces rapports sexuels et d'éviter les infections sexuellement transmissibles en général et le VIH-SIDA en particulier. Il faut d'abord donner l'information et mettre à leur disposition, à leur portée du moins, les moyens de prévention.
Voilà, donc premièrement c'est l'abstinence, en deux vous dites l'utilisation des préservatifs. Pourquoi cette stratégie, l'abstinence, ne marche pas?
L'abstinence ne marche pas, on ne sait pas le dire spécialement pour le VIH-SIDA. Vous savez que c'est lié au comportement de l'être humain. C'est un combat que mènent les psychologues, les religieux, qui demandent aux jeunes gens de s'abstenir, d'attendre le mariage, d'être fidèles. Mais nous, en tant qu'acteurs de santé, nous n'entrons pas dans ce combat-là. Notre devoir, c'est de protéger notre population. Nous constatons malheureusement que la recommandation qui est faite aux jeunes de s'abstenir n'est pas observé. Et cette non-observance de l'abstinence les expose aux infections sexuellement transmissibles dans le VIH-SIDA, et nous avons donc l'obligation de les protéger. Et maintenant, il faut d'abord commencer par leur donner l'information sur l'existence de ces infections. Et en deuxième étape, leur montrer comment les éviter. Donc l'abstinence, c'est un grand combat, ce n'est pas un combat des acteurs de santé, il y a des gens qui sont responsables de ces combats, mais nous constatons malheureusement que ça ne marche pas.
Alors aujourd'hui, comment se présentent les statistiques de la maladie par rapport dans les milieux scolaires?
Nous faisons chaque année des enquêtes qu'on appelle des enquêtes de sérosurveillance. Nous essayons de voir dans la population en général comment se présente l'ampleur du VIH-SIDA dans notre population. Et dépend les statistiques que nous avons à notre portée, nous remarquons que la tranche d'âge la plus touchée, où il y a de nouvelles infections, c'est la tranche d'âge de 15 à 24 ans, où il y a un plus grand nombre de nouvelles infections par rapport à d'autres tranches d'âge. Et c'est ce qui fait dire au programme, de manière générale, que l'infection VIH se juvénilise, c'est-à-dire les jeunes sont plus touchés par cette infection. Donc il y a plus de nouvelles infections dans cette tranche d'âge, sans entrer dans les détails statistiques. Ça, c'est un peu la grande conclusion.
Oui.
Et nous constatons malheureusement que cette tranche d'âge qui est la plus touchée était une tranche d'âge qui était censée pratiquer la première stratégie de protection qui est l'abstinence. Donc, on propose l'abstinence, on propose la fidélité, on propose l'utilisation des préservatifs. Ce sont des propositions qu'on présente et suivant la réalité des vies de chacun, suivant les tranches d'âge. Mais là où nous étions censés donner l'abstinence comme moyen de protection, on constate que ces gens ne s'abstiennent pas et donc on doit revoir toutes ces stratégies. Maintenant, la difficulté, ce sont les mineurs. Ce sont les mineurs qui, déjà, il faut leur parler du sexe. Nous sommes en Afrique. Oui. Vous savez toute la difficulté liée à la sexualité. Notre culture, les parents sont réservés. Ce sont des tabous qui tournent autour du sexe. Et c'est toute cette difficulté-là qui tourne autour de cette tranche d'âge qui est la plus touchée. Et donc, nous disons, avec les acteurs des écoles, en milieu scolaire, on peut intégrer la question des infections sexuellement transmissibles,
oui,
et du VIH en général, vu que la lutte est multisectorielle maintenant, qu'ils puissent déjà donner l'information dans tous les cours, tels que les cours d'éducation à la vie, que ces informations puissent déjà entrer dans ces tranches d'âge-là. Qu'ils aient l'information, qu'ils aient les lieux où ils peuvent avoir à leur portée ces moyens de prévention.
Oui.
Mais il y a aussi la loi. La loi dit que pour les mineurs, pour qu'ils se fassent tester, il faut avoir le consentement des parents, parce que c'est là aussi une implication quand ils sont positifs. C'est le parent qui sera responsable. Donc, ce n'est pas facile. L'infection VIH va se localiser dans une tranche d'âge qui a beaucoup de difficultés en termes d'approche de lutte contre le sida. Et nous nous disons, il faut commencer par leur donner l'information. Et ces jeunes sont où? Les jeunes de 15 à 24 ans, ils sont en 5e, 6e des humanités,
oui.
Ils sont au début de l'université. Et nous disons, une bonne stratégie devrait commencer par donner l'information des jeunes qui sont en 6e primaire. On commence déjà en 6e primaire. Et première secondaire, deuxième secondaire, déjà quand les jeunes filles ont leur menstruation, et elles ont tous ces changements morphologiques, qu'ils sachent déjà que par rapport à cet acte sexuel, je peux avoir telle infection, je peux avoir une grossesse non désirée, j'ai d'avoir des rapports sexuels précoces.
Alors Didier Kamer, qu'est-ce qui explique que les mineurs sont sexuellement actifs d'une manière précoce actuellement?
Oui, là, vous entrez dans une question qui est plus large, hein, qui va au-delà du cadre purement médical. C'est une question qui va toucher les cultures des gens, c'est une question qui va toucher les us et coutumes de la société. Pourquoi les gens sont plus actifs? Ça tourne autour de tout ce qui est à leur portée, comme
oui.
Film, comme message, comme stimulant, les drogues, l'alcool, etc.
Alors, au niveau,
c'est l'environnement,
oui, c'est l'environnement. Alors, au niveau des écoles, est-ce qu'il y a déjà un programme qui a été intégré, tel que vous l'avez dit tout à l'heure, dans le cadre du cours de l'éducation à la vie pour faire la sensibilisation sur le VIH/SIDA et les maladies sexuellement transmissibles?
Oui, nous sommes censés travailler directement en collaboration avec les ministères de l'enseignement primaire et secondaire, et c'est aux experts du ministère de l'enseignement supérieur et secondaire, ils vont prendre les messages que nous donnons, les adapter parce que eux, les communicateurs, ils savent que tel message, comment ils peuvent le rendre à ses élèves. Donc, et ce travail a déjà commencé, il y a des petits modules, donc il faudrait revoir un peu tout ce qu'on appelle la réforme de l'enseignement, etc., revoir les cours, certains contenus, les intégrer. Et je pense qu'à ce moment, au niveau du ministère de l'enseignement primaire et secondaire, ce travail se fait déjà.
Ce travail se fait déjà. Alors, donc, les stratégies, vous avez parlé de l'utilisation des préservatifs, et puis autre chose?
Oui, la première stratégie, ce n'est pas le préservatif. La première stratégie pour le milieu scolaire, c'est d'abord la formation. Utiliser l'information, parce que l'ignorance est un facteur qui favorise la contamination. C'est le plus grand facteur d'ailleurs. L'ignorance est un grand problème, il faut combattre l'ignorance. Et on pensait que c'était d'abord les grandes personnes, mais là, on s'est dit, il faut commencer très tôt, déjà chez les élèves des 6e primaire, monter au fur et à mesure, ils commencent les rapports sexuels ou pas, mais qu'ils aient déjà l'information. Après,
oui.
Il faudrait que nos jeunes gens connaissent leur état sérologique. Ceux qui sont en 6e des humanités, les jeunes filles dans notre pays, en milieu rural, se marient autour de 16 ans, 18 ans, ils n'entendent pas 30 ans comme ils savent qu'ils ne savent pas. Et donc, elles doivent avoir l'information sur l'état sérologique. Je dois connaître mon état sérologique. Est-ce que je suis infecté ou pas? Pour entrer dans un mariage, mon partenaire avec qui je vais me marier, ou le papa qui veut me prendre en mariage, ou l'homme auprès de qui mon père me demande d'aller être la deuxième ou troisième épouse, etc.
Mmh.
Quelle est sa situation sérologique? Donc, les jeunes gens doivent avoir aussi l'information sur ce qu'est l'état sérologique. Savoir si je suis infecté ou pas, est-ce que mon partenaire est infecté ou pas, et que faire. Et si je suis infecté, que dois-je prendre comme disposition?
Est-ce qu'il y a des programmes qui prévoient, par exemple, d'organiser des dépistages au niveau des écoles?
Nous avons ce qu'on appelle des dépistages de sensibilisation des masses, des CDV mobiles. On fait des déplacements, souvent dans des activités foraines, à la Fikine, à gauche, à droite. On fait des déplacements vers les jeunes gens. Par exemple, je vous donnerai l'exemple du centre Bomoto, au centre Bomoto. Et là, c'est un centre des jeunes. Et alors, on a installé à ce niveau-là des groupes de dépistage, on a installé des communicateurs. Les jeunes, on a identifié certains jeunes qui ont été formés comme pères éducateurs, qui donnent l'information aux autres jeunes sur ce que le VIH, les IST, les grossesses non désirées, et comment les éviter, que faire si cela arrive.
Des questions et préoccupations, composez le 081 890 63 94. Vous pouvez également nous écrire à service@radiocapi.net. Nous parlons aujourd'hui de la lutte contre les VIH-SIDA et les maladies sexuellement transmissibles en milieu scolaire.
Radio Okapi encourage les jeunes talents congolais. Auteurs, compositeurs, interprètes, une adresse mail est à votre disposition. musique@radiokapi.net. Envoyez vos chansons. Après sélection, elles feront peut-être partie de la playlist ou d'une émission de Radio Okapi. Faites-vous connaître, des millions d'auditeurs vont écouter votre musique. musique@radiokapi.net. Allez-y, on vous attend.
Comment lutter contre le VIH/SIDA et les essais en milieu scolaire? Justin Sidiri est à Béni, bonjour.
Bonjour, j'ai vu déjà notre invité.
Quelle est votre question, Justin?
Bon, juste, j'aimerais poser une question à notre invité. Je suis enseignant dans une école secondaire de la ville de Béni.
Oui.
Et l'année dernière, nous avions reçu un groupe de l'Espoir pour la vie. Il y a un groupe qui fait la sensibilisation contre les maladies sexuellement transmissibles. Alors, quand les amis avaient interrogé les élèves et tout leur dire quelles sont les conséquences qui peuvent survenir, comme moi de protection, les amis de l'Espoir pour la vie, ils avaient dit comme préservatif aussi un moyen pour se protéger. Maintenant, j'aimerais poser la question à notre invité. Faudra-t-il donner des préservatifs aux élèves à niveau éducatif pour se protéger contre les VIH/SIDA?
Merci à Justin Tiviri. Benjamin Malejani est à Isiro, dans la province orientale. Bonjour.
Merci bien, monsieur Jédika. Ça m'a fait Benjamin Malejani. Je suis à Isiro, comme vous venez de le dire.
Benjamin Malejani.
Oui, très capital. Parce que si on voit bien, dans notre milieu ici, dans la province orientale, on suspecte toujours Nessou, que c'est Nessou qui est le premier village qui contient beaucoup de PVV, et certainement, c'est évident. Maintenant, dans l'enseignement primaire et secondaire, n'est-ce pas qu'on a introduit des cours qui parlent de VIH/SIDA, notamment l'éducation à la vie, tout ça, et malgré tout ça, on voit que tous ces jeunes-là sont toujours plongés dans les domaines sexuels et penses d'ailleurs. Et raison pour laquelle je voudrais te poser les questions à l'invité, qui peut nous donner autre moyen, parce que on voit qu'on est en train de sensibiliser ces élèves par les enseignants, même à la maison. Est-ce qu'il n'y a pas autre moyen qu'on peut aider ces jeunes à faire qu'ils puissent bien vivre et de ne pas être contaminés par les VIH/SIDA? Et c'est ça un peu la question que je voudrais poser.
Merci Benjamin depuis Siro. Didier Caméré.
Merci beaucoup. Notre ami de Béni Justin nous a demandé par rapport à l'utilisation des préservatifs en milieu scolaire. Vous comprenez un peu que nous sommes dans une approche de lutte contre le sida où les axes sont assez sensibles. L'utilisation des préservatifs en milieu scolaire, ce n'est pas une approche que nous recommandons.
Oui, la distribution des préservatifs dans les écoles.
Dans les écoles, oui. Nous proposons plutôt d'utiliser la stratégie de la communication, la sensibilisation. Et cette question de notre ami de Béni vient rejoindre celle d'Isiro où il dit « Oui, nous respectons cette stratégie où nous faisons la sensibilisation par les cours, à la maison, on donne l'information, mais il ne change pas de comportement. » Ça, c'est le même problème que nous avons même avec les adultes. Est-ce que la connaissance va entraîner un changement de comportement? Chez certaines personnes, la connaissance va permettre à celui qui est responsable d'adopter un comportement aussi responsable pour éviter la contamination. Mais nous disons que la formation seule ne suffit pas. Il faut amener la personne au dépistage. Parce que nous avons constaté que le dépistage entraîne un déclic plus important que le niveau de la connaissance simple. Parce que si je sais aujourd'hui que je suis infecté ou je ne suis pas infecté, par exemple, ça va me permettre d'adopter un comportement précis. Donc, on ne doit pas se limiter simplement au niveau de la simple information. On doit aussi aller au-delà de l'information sur les infections et leur proposer aussi d'aller au dépistage. Maintenant, la difficulté du dépistage sera, pour dépister un mineur, il faut avoir l'autorisation de son père ou de sa mère ou de son responsable. Parce que pour tester un mineur, il faut que son responsable soit informé car il y a des implications juste après. Et nous disons en résumé que il faut que la formation continue, on ne doit pas arrêter la formation, même s'ils ne changent pas de comportement tous d'emblée, même si les adultes, nous constatons la même chose, tous les adultes qui ont la formation sur les voies de transmission, les voies de prévention, certaines personnes, après avoir pris un verre de trop, vous savez qu'ils oublient des fois le préservatif, ces comportements inhumains, on peut les rencontrer chez les jeunes.
Oui.
C'est pourquoi nous insistons d'aller aussi jusqu'au dépistage, car on a constaté que le dépistage amène un meilleur déclic que la simple sensibilisation.
Il faut aller au dépistage, mais vous dites qu'il y a un problème, il y a une contrainte, il faut l'autorisation des parents. Donc, c'est pas possible d'organiser des dépistages au niveau des écoles.
Non, c'est justement ça ce que nous demandons. Si vous demandez à un jeune d'aller au dépistage, cela veut dire que vous devez lui dire d'informer son père qu'il aille informer son père ou son responsable. Papa, demain, je vais aller faire mon test de VIH. Et son père doit être informé et donner son consentement. C'est-à-dire, là, on ne sait pas s'il est affecté ou pas, mais le père doit donner son consentement parce que s'il est affecté, on ne peut pas dire voilà comment ça prend les médicaments sans que les parents soient informés parce qu'il y a certaines infections liées au VIH qui ne sont pas prises en charge totalement en termes de gratuité. Ça demandera qu'on achète des médicaments peut-être à la pharmacie. Et donc, il faudrait que le responsable soit informé. Quand on demande à un jeune de se faire dépister, il faudrait lui dire au même moment, tu vas voir ton père pour l'informer que tu as accepté de faire le test de VIH. Et si ce dernier manifeste de la résistance, c'est-à-dire le responsable, pourquoi nous faisons généralement une invitation au responsable dans notre cabinet de conseil pour l'informer sur le bien fondé du dépistage précoce du VIH, savoir s'il est affecté ou pas, parce qu'il faut éviter que l'enfant aille dans ce qu'on appelle le sida. Nous devons éviter le sida dans notre population.
Nous devons éviter le sida au sein de notre population. Donc la meilleure stratégie, telle que vous l'avez dit, bon, la première stratégie, c'est l'information. Alors quels sont les moyens, les différents moyens d'informer les jeunes par rapport à cette pandémie? Parce que malgré cela, il y a pas toujours un changement de comportement. Peut-être qu'il faut mettre beaucoup de moyens dans la sensibilisation.
Oui, il y a ce qu'on a la première proposition que nous avons faite, c'est d'aller en milieu scolaire, là où ils se retrouvent généralement, ils sont à l'école, il faut les trouver aussi dans les centres des jeunes, ils sont dans des centres de loisirs, et il faut pas négliger, nous négligeons pas l'approche des leaders d'opinion, les musiciens, toutes les stars, et nous approchons toutes les personnes pour qu'ils intègrent dans leur activité la sensibilisation des jeunes sur le VIH, qu'ils donnent l'information, parce que ces jeunes cherchent souvent des modèles, et quand on identifie ces leaders d'opinion, nous leur demandons de donner l'information avec que ça passe mieux. Et puis, il y a tout ce qu'il y a comme activité, des vacances, tous ces points-là sont en fait des canaux de communication, des stratégies de communication. L'essentiel, c'est que on touche les jeunes et qu'on leur donne l'information sur les modes de transmission, sur ce que le VIH et comment l'éviter, et puis leur demander d'aller au dépistage. Et c'est là où il y a évidemment le grand travail, parce qu'on va vous demander d'aller jusque dans la cellule familiale.
Antoine Lokatao, vous êtes à Kananga, bonjour. Antoine Lokatao, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Kananga, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au VIH en milieu scolaire?
Bon, comme l'invité vient de le dire, on constate qu'il y a beaucoup de cas de porteurs de sida dans les écoles. Alors, comme il y a des campagnes de vaccination pour la poliomyélite, on annonce ça bien avant. On sait très bien que le sida punit plus que la poliomyélite dans notre pays. Alors, pourquoi on annonce pas, on ne sait pas, faire des annonces pour dire que voilà, de telle période à telle autre, il y aura des dépistages volontaires. On dit bien volontaires, on informe, on s'élève aux parents, et dans les cas de communication par exemple. Et moi, je crois qu'une fois que les vaccinateurs seront, disons, ceux qui vont faire les dépistages seront dans les écoles, il y a des parents qui vont donner quand même leur accord pour que certains élèves se fassent vacciner. Moi, je ne sais pas s'ils peuvent le faire tout ça, mais toujours est-il concernant la formation, moi j'étais aussi enseignant, je me rappelle très bien la dame qui donnait les cours d'éducation à la vie dans notre école.
Oui.
Bon, avait difficile hein, à parler de problèmes de sexe. Hein. Comme vous l'avez dit, c'est un tabou hein, dans nos milieux. Bon, et puis la plupart, ce sont des dames et puis d'un certain âge hein, qui ont des difficultés à transmettre les informations aux élèves, comme dans vos familles d'ailleurs, les mamans parlent rarement à leurs enfants. Hein, quelqu'un prévoit l'inviter avec sa structure hein, concernant ces cas des enseignants qui n'arrivent pas à être libres pour dire ce qu'il faut. Parce que moi, je me rappelle l'autre dame là, hein, que j'ai salué en passant, je ne sais pas si elle va me reconnaître. avait difficile. Pour elle, elle ne parlait pas de préservatif. Il n'y avait que l'abstinence. Alors que, par rapport aux élèves, elle paraissait, il y a même les filles, parce que c'est une école de filles, qui trouvaient que la dame connaissait moins qu'elle, hein, on voyait.
Voilà. Donc, Antoine, oui, on comprend votre préoccupation. Donc, la dame avait du mal à parler de certaines choses liées au sexe aux élèves. Voilà, à cause de tabous, elle était un peu gênée. Merci.
On a parlé d'ailleurs beaucoup dans la salle des professeurs, hein.
Oui. Bien, merci, Didier Caméré.
Oui, merci beaucoup pour notre ami de Canada. Vous remarquez que le VIH-SIDA, c'est un problème qui touche toutes les couches de notre population et cela demande que le programme de lutte puisse intégrer dans toutes les structures qui travaillent avec les gens. Déjà, pour information, nous sommes dans la stratégie d'intégration de notre lutte contre le SIDA dans ces programmes, les consultations prénatales. Toutes les femmes enceintes qui viennent en consultation prénatale, on leur parle du VIH-SIDA. Dans l'occasion de consultation préscolaire, on est en train d'intégrer le message du SIDA. Et dans le programme des adolescents, hein, santé des adolescents, nous sommes en train de travailler avec ce programme pour qu'ils puissent donner l'information sur le VIH-SIDA, comment l'éviter, etc., et les moyens de prévention. Et puis, il y a le programme de santé de la reproduction. Donc, vous voyez qu'il y a une multitude de programmes, mais qui travaillent de manière isolée. Et nous sommes en train de voir comment faire une intégration pour que le message du VIH-SIDA passe par plusieurs canaux et que la cible, qui sont les jeunes, soit la bonne information. Les enseignants, vous comprenez ici, nous, en tant qu'acteurs de santé, on a fait des études de surveillance épidémiologique. Les chiffres sont là, les chiffres, ils font mal au cœur quand on constate que ce sont ceux qui devaient s'abstenir, qui sont les plus touchés par cette infection. Ça fait très mal, c'est l'avenir de demain. Et que faire? Nous présentons les statistiques, nous présentons les moyens de prévention et nous disons les spécialistes des communications, les enseignants, doivent prendre le message que nous leur donnons et les transmettre de la bonne façon. C'est vrai qu'il y a autour de ça. Ici à Kinshasa, ça va peut-être un peu mieux. Mais à milieu de France, je sais que ça doit être plus difficile parce qu'il y a le tabou, il y a le problème culturel. Et donc, c'est notre responsabilité à tous. C'est d'abord au niveau de l'école. C'est le ministère qui doit organiser des petits modules, des petits dépliants. Peut-être que ces enseignants doivent suivre aussi un petit briefing sur le VIH-SIDA. Mais vous comprenez que le problème culturel va au-delà des diplômes. Peut être licencié, c'est pas moi en pédagogie, mais quand vous devez parler du sexe, ça pose problème. C'est l'exemple qu'on vient de nous donner. Et nous pensons que chacun a une part de responsabilité pour sauver notre jeunesse. Et c'est dur silencieux. Mais les chiffres nous font montrer qu'on doit prendre des dispositions parce que les jeunes sont de plus en plus touchés, parce qu'on les ignorait, on les a laissés un peu pour compte. Et là, le VIH-SIDA va s'installer dans cette tranche d'âge-là. Et donc, demain, nous aurons encore des malades dans 10 ans. Celui qui a été touché par le VIH à 18 ans, à 28 ans, à 32 ans, il va manifester les signes du SIDA. Et le SIDA va rester permanent dans la population. C'est pourquoi nous voulons suivre le mal dans ces derniers effrachements, comme diraient les militaires, quoi.
Didier Caméré, coordonnateur provincial du Programme national de lutte contre le SIDA. Je vous remercie.
Merci beaucoup.
Thank you.